Interview. 100% du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis en compagnie de Théo, Théo Harfouch. Bonjour.
Bonjour.
Tu es membre du duo Moods.
Absolument.
Absolument.
Un duo qui peut d'ailleurs parfois être un trio, ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure.
Ah, parce qu'on est là depuis un moment en rantaine. Alors toi, tu joues du violoncelle dans ce duo et vous faites de la musique indienne ?
Absolument. Alors, on fait plutôt une musique, je dirais, qui travaille sur le répertoire indien, mais qui utilise d'autres ficelles, d'autres recettes venues plutôt d'Occident, pour le coup. Y a une petite part d'électronique, d'ailleurs, dans le groupe qui tend à s'accroître au fur et à mesure du temps. Et puis moi, par le violoncelle, qui amène quelque chose d'autre, quelque chose qui n'est pas présent en Inde.
Tout à fait. Et puis même, on va en parler plus en détail, mais c'est presque le choc de l'instrument qui, lui, n'a pas de cordes sympathiques, est très symphonique,
absolument,
calibré,
ouais, ouais,
avec les autres qui ne le sont pas.
Ouais, exactement.
C'est quoi ta formation ?
Alors, moi, j'ai une formation qui est un peu, comment dire, un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'à la base, je suis, comme beaucoup de gens, guitariste. J'ai appris ça au collège, mais j'avais vraiment... J'avais pas le profil de cette personne, tu sais, qui fait des solos très rapides et tout. J'étais plus du genre geek qui s'enferme dans sa chambre et qui fait des bruits bizarres toute la journée avec des pédales d'effet. Et quand j'ai eu 17 ans, je me suis dit « Ah, ce serait peut-être bien que je joue d'un vrai instrument ». Et là, je me suis mis au violoncelle et j'ai, on va dire, essayé de faire le conservatoire pendant quelques années. Et la musique écrite, ça m'a pas tellement parlé. C'est ce qui m'a amené à me tourner vers... en fait, des musiques qui ne le seraient pas écrites, qui seraient orales. Et c'est là que je me suis intéressé à la musique indienne. Et j'ai donc rencontré un Indien qui vivait à Paris. Alors, je précise qu'on parle bien d'Indien d'Inde. Hein, et qui m'a d'abord enseigné le chant. Et puis ensuite, au fur et à mesure des années, on a transposé ce savoir-faire sur le violoncelle.
Comment tu es allé à la musique indienne ? C'était quand même déjà quelque chose que tu écoutais ou...
Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert au moment où je me suis questionné sur bon, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que ce qu'on attend que je fasse en tant que violoncelliste. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que cette espèce de musique un peu romantique, que cette image un peu éthérée. Je ne veux pas casser du sucre sur le dos de l'image habituelle du violoncelliste, mais voilà, simplement... Au moment où je me suis demandé qu'est-ce que je préfère de différent, cette approche-là, elle s'est présentée à moi parce que c'était une musique qui se transmettait de manière orale et qui était essentiellement improvisée. Et c'était ça qui m'attirait.
Oui, mais du coup, tu es quand même allé le chercher. Il fallait le savoir qu'elle était orale et improvisée.
Oui. Mais bon, voilà, souvent, quand on gravite dans le milieu de la musique, on rencontre des personnes et d'autres. Et ça a été le fruit, en fait. Enfin, ma rencontre avec la musique indienne a été le fruit d'une rencontre avec un autre musicien qui, lui, avait décidé que ce serait ça qu'il ferait. Et voilà, pour preuve, il est d'ailleurs parti en Inde pour pouvoir apprendre vraiment intensément quoi, cette tradition-là.
Alors, on revient à ce que tu disais. Donc, toi, tu apprends par le chant, du coup, donc par l'oral.
Hein, ouais.
Voilà. Et tu transposes ça après sur l'instrument ?
Oui, voilà. C'est ça, exactement. C'est d'ailleurs, en fait, la base de l'enseignement en Inde. Ça passe toujours par le chant, y compris pour les instruments à percussion. C'est-à-dire qu'ils ont là-bas tout un système de phonèmes, de syllabes, d'onomatopées qui vont se rapporter à des frappes rythmiques spécifiques et qui ensuite vont pouvoir être traduites concrètement sur l'instrument.
Donc toutes les partitions ont été oralisées.
Ouais, oralisées et mémorisées.
Qu'est-ce qui change du coup ? Enfin, qu'est-ce qui t'a été imposé ? Par rapport à on en a parlé tout à l'heure, de la rudesse de l'instrument, le violoncelle a des cordes précises, une note. Est-ce qu'il a fallu, je sais pas, le pousser à bout, cet animal?
Pas tellement, en fait. Le violoncelle est un instrument qui se prête plutôt bien à l'exercice de la musique indienne. À ceci près qu'effectivement, il ne possède pas de cordes sympathiques, mais ça ne l'empêche absolument pas de participer à ce répertoire, parce qu'après tout, il y a bien des chanteurs en musique indienne et les cordes vocales n'ont pas de cordes sympathiques. Mais non, il s'y prête plutôt bien parce que c'est un instrument qui n'a pas de fret et qui donc permet tous ces glissés qu'on va entendre, qui sont assez spécifiques à cette musique-là, à des tempéraments, à des positions de notes qui vont être légèrement différentes de celles auxquelles on est habitué par chez nous. En fait, le violoncelle avait a priori toutes les qualités nécessaires pour s'insérer dans ce répertoire.
Et alors, tu es associé à Renaud Dagneau,
ouais.
On va le présenter un petit peu, et lui fait de la slide guitare indienne parce qu'elle a des cordes sympathiques.
Ouais, absolument. En fait,
j'allais dire, sinon, vous êtes tous les deux à ne pas utiliser des instruments traditionnels pour faire de la musique indienne.
Non, lui, pour le coup, il est vraiment allé le chercher en Inde. Il a appris en Inde pendant très longtemps. Et d'ailleurs, on dit slide guitare pour que ce soit vraiment compréhensible de notre côté. Mais le nom spécifique de son instrument, c'est le chaturangi. Et donc, c'est un instrument à 21 cordes, sauf qu'en réalité, on n'en joue que 7, si je ne dis pas de bêtises. Malheureusement, Renaud n'est pas là pour me, pour me corriger si je dis une connerie. Mais voilà, c'est un instrument qui se pose à plat, donc soit sur les genoux, soit éventuellement sur une table si on joue debout, ce qui est assez rare. Et en fait, à l'aide d'un bottleneck, qui est un petit accessoire en acier lourd, on va glisser sur les cordes plutôt que d'appuyer avec les doigts sur des frettes. Et c'est ce qui permet, du coup, sur un instrument de ce type, d'avoir également un son comme ça assez fluide, qui est assez caractéristique de cette musique.
Tu y es allé en Inde ?
Alors non, moi j'y suis jamais allé. Je suis allé dans le quartier indien. j'ai fréquenté de très près les Indiens de Paris, ceux qui vivent en France. Et je ne peux pas tout à fait dire que c'est comme si j'étais allé en Inde, mais c'était suffisamment dépaysant pour me donner un aperçu.
Ouais, tu dirais que ça suffit ? Est-ce que ça va être indispensable à un moment donné d'aller en Inde pour apprendre, comprendre des nouvelles choses?
Je dirais que dans le cadre de Moods, en tout cas, ça serait vraiment un souhait pour nous, en tant que groupe, de nous y rendre à un moment donné pour procéder à un échange, en fait. Tu vois, que ça reste pas juste quelque chose que nous, on vient chercher de loin. On aimerait bien, en fait, un jour aller en groupe et dire, voilà, nous, on a appris votre musique et on a fait ça avec. Et bon, peut-être, je sais pas, peut-être ça vous plaît, mais peut-être pas. C'est le risque.
Les Indiens, ils vont quand même déjà bien loin dans leur musique. Ils ont beaucoup fusionné, etc.
Ouais.
Alors, tu parlais de l'apport électronique. Il est à quel niveau dans Moods ?
Alors, en fait, pour l'instant, il est à un niveau essentiellement d'arrière-plan. En fait, on construit des sortes de paysages sonores dans le fond, derrière les instruments. On remplace en fait un instrument qui s'appelle la tambura. Qui est,
le bourdon
Ouais, c'est ça, le fameux bourdon spécifique de la musique indienne. On le remplace par des instruments électroniques et on tente de construire comme vraiment des décors sonores avec des premiers plans, des troisièmes plans, des énergies sonores qui vont venir à l'avant entre deux solos, voilà, des choses comme ça. Ça, c'est l'apport de l'électronique tel qu'il est actuellement, tel qu'on peut l'entendre. Parfois en concert, ça ne sera pas le cas là dans le concert dont on va parler, parce qu'on sera en full acoustique, mais pour l'instant c'est ça. Et puis en fait, avec le temps, là on projette de vraiment partir dans un travail sur ce qu'on pourrait appeler des instruments augmentés. C'est-à-dire vraiment des instruments acoustiques qui vont produire à un moment donné, à un moment choisi,
un son. Une pédale sur le violon, quoi.
Pas tout à fait une pédale en fait. Plus comme une sorte de programme informatique qui repère et répond. À l'impulsion d'un interprète.
Un sacré travail, ça.
Ouais, ça nous prend du temps. C'est pour ça que pour l'instant, on n'y va pas trop vite.
Et la rythmique ?
Et la rythmique, alors, elle est assurée quand on est en trio par un troisième comparse qui s'appelle Damien, qui vit pas dans la Drôme, qui vit assez loin, en fait, qui vit dans la Moselle, presque à la frontière de l'Allemagne, et avec qui on est en résidence assez régulièrement.
Et lui, il joue ?
Alors lui, il joue du tabla. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut le dire. Ah oui. Sinon, on ne comprend pas. Ouais. Il joue du tabla et également il chante le rythme de la manière dont ça se fait en Inde. Ça s'appelle du konokol. Je peux pas du tout vous en faire une démonstration, mais voilà, ça peut être assez impressionnant.
Ouais, je pense que tout le monde a au moins entendu ça une fois dans sa vie. Musique indienne, c'est précisé sur la fiche qu'on va décrire petit à petit. Raga mala, c'est alors, un courant particulier.
Ouais, alors en fait, c'est pas un courant, c'est un type de concert. C'est-à-dire quand vous vous rendez vraiment à un concert traditionnel de musique indienne, vous pouvez soit assister à ce qu'on appelle un raga. Donc il va vous être joué une composition. En fond, plutôt un raga. Il faut bien comprendre que le raga, dans la pensée indienne, c'est un ensemble de notes qui vont être jouées d'une manière particulière et qui vont évoquer un sentiment particulier. En fait, c'est un climat.
Même un moment dans la journée, par exemple, il y en a pour le matin, pour le midi, pour telle heure.
Absolument.
Pour tel instant.
Ouais, exactement. En fait, si on veut vraiment être traditionnel, si on fait un concert à 23h, on va choisir un ensemble de ragas qui peuvent être joués à cette heure-ci. On ne va pas prendre un raga qui va être associé à l'aurore ou au midi, parce que ce n'est pas la même tonalité, ce n'est pas la même énergie dans laquelle on se situe.
Est-ce que vous vous limitez à ça aussi? Parce qu'ici, tout le monde s'en fout. Enfin, personne ne le sait.
Oui, exactement. Personne ne le sait, mais parfois, on l'explique avant les concerts. On travaille en fait à quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie de se demander, OK, bon, ce raga-là, traditionnellement, en Inde, il est associé à ça. Et pour nous, occidentaux, ça pourrait évoquer ceci, cela. Tiens, toi, ça t'évoque quoi? Et en fait, on essaie de voir où est-ce que les idées peuvent se rencontrer entre ces différentes cultures. Et donc, quand on joue un raga, par exemple, là, on travaille sur un prochain répertoire qui travaille beaucoup sur la notion du rêve. Et donc, on a travaillé sur un rag qui n'est pas tellement lié au rêve, mais qui est lié à des choses qui sont connexes. Et en fait, on tâche, nous, dans notre travail de musicien, d'apporter cette ambiance-là, et sur scène, et dans le jeu musical. Et pour en revenir au ragamala, pour le concert qu'on va faire prochainement au Château Saint-Féréol, ragamala, ça signifie, c'est comme une guirlande de raga. C'est-à-dire que plutôt que de faire un concert sur un rag particulier, qui va durer une heure. Là, on va faire un ensemble de petites compositions qui vont durer chacune 5 minutes, 10 minutes, etc. Quelque chose qui est plus proche, en fait, de ce qu'on a l'habitude d'expérimenter comme concert chez nous en Occident.
Et est-ce qu'on, du coup, on peut se faire dans un concert le matin, le midi, le soir?
Ouais, en fait,
ça vaudrait le coup.
Hein. C'est absolument ça le programme. Ouais, c'est-à-dire, okay. Là, on va vous accompagner de la fin de journée jusqu'au petit matin. Donc, on va faire toute la nuit ensemble, mais en 2 heures.
Tu parlais d'être intégralement acoustique, alors comment on va tourner le bourdon?
Alors le bourdon, il va nous suivre grâce aux cordes sympathiques de nos instruments. Okay. Et puis on va se relayer en fait l'un et l'autre pour le produire à certains moments clés. Mmh. Et puis bon, on triche un peu, mais on utilise de temps en temps une petite pédale de freeze qui fige le son derrière nous pour, voilà, à certains moments clés se faire un paysage sonore quand même.
On découvre en musique, tu nous as amené 2 morceaux, on va en écouter un maintenant, parce que ça fait du bien de se faire une petite pause musicale.
Absolument.
Avec donc le morceau Darbari, tiens, parlons-en, qu'est-ce que c'est?
Alors en fait, c'est le rag Darbari Canada, je ne l'ai pas mis en entier dans le titre, mais voilà, Darbari Canada, qui en fait est un rag qui se joue spécifiquement dans les milieux aristocratiques en Inde. Et qui est très associé aux cérémonies, à des moments, voilà, des moments
solennels.
Voilà, très solennels. Et en fait, nous, on en a fait une composition, on l'a déclinée sur le mode tragique, je dirais. Et on travaille beaucoup sur la sensation de l'écoulement du temps. Je ne veux pas en dire plus.
Non, mais il faut laisser
la musique agir.
Ah bah ouais. Thank you. Retour sur RDOA après ce titre, donc que tu citais en entier, je vais te le laisser dire en entier. Hein.
Raga Darbari Canada.
Canada, pourquoi Canada ?
Alors ça n'a rien à voir avec le Québec.
Bien sûr.
Non, en fait, Canada, ça se rapporte à une famille de raga. En fait, ça se rapporte à un système d'ornementation qui est spécifique à cette famille de raga.
On parlait hors antenne que c'est toi qui as fait le mix, alors vous vous enregistrez tout seul, vous avez votre studio, vous êtes autoproduit.
Ouais, depuis quelques temps seulement en fait, ouais. On commence à pouvoir s'enregistrer, on produit quelques clips aussi. D'ailleurs les morceaux en fait que j'ai apportés aujourd'hui, ils sont tous deux sur internet. On peut les suivre sur notre chaîne YouTube, bien que ce soit un peu compliqué pour l'instant de nous trouver autrement qu'en cherchant Moods et en tapant à côté Haiku. Voilà, parce qu'on produit des morceaux courts. C'est l'idée de cette série qu'on appelle Haïku.
Du japonais.
Ouais, c'est ça.
Mélangeant tout.
Bah ouais. donc c'est une série de très courts clips qui ont vocation à plus amener vers de la contemplation que d'enchaîner des images très saisissantes.
Donc vous êtes au début en fait.
Ouais.
Il a quel âge, Mood?
Alors, Mood, c'est assez ancien, en fait, comme, en tant que groupe. C'est-à-dire, Renaud et Damien jouaient ensemble là, depuis 6 ou 7 ans. Et moi, j'ai intégré le groupe il y a seulement... il y a un peu moins d'un an, en fait. Ça fera bientôt un an. Voilà, donc en fait, le duo, la formule violoncelle Chaturanghi est assez jeune, bien que le groupe, lui, soit assez mûr.
Et ils avaient déjà enregistré ?
Ouais. Ils ont un album précédent.
Voilà, parce que j'allais dire, sinon, comment on peut vous connaître ?
Ah bah, y a un site internet.
Oui, quand même.
Voilà, qui s'appelle inthemoots.fr, sur lequel voilà, on peut trouver toute l'actualité du groupe et également les travaux passés.
C'est beaucoup de concerts à l'année, Moods ?
C'est de plus en plus de concerts, mais on est surtout dans une période très créative. En ce moment, où on prépare on prépare un set qui est voué à être porté sur l'électronique, vers l'amplification, vers la sonorisation. Donc en fait, voilà, c'est surtout une période pendant laquelle on déconstruit, on reconstruit, et ça laisse un peu moins d'ouverture sur l'extérieur. Mais néanmoins, voilà, on trouve le temps de faire des concerts dans le coin. Parce que ça nous fait du bien, parce qu'on en a envie, parce que le contact en fait avec le public est très important.
Ce nouveau travail là sur l'amplification, c'est en fait pour être destiné à jouer sur des plus grosses scènes, en festival, ce genre de choses,
ou
pour faire péter quelque chose.
Péter, je ne sais pas si on ira jusqu'à faire péter quelque chose, mais c'est destiné à pouvoir faire rêver en grand nombre en fait, pouvoir. Puis voilà, atteindre une certaine amplitude qu'on n'atteint pas en acoustique.
Alors on vous retrouve donc au château de Saint-Ferréol, tu le disais tout à l'heure, et puis on va le repréciser. Donc c'est à Minglon, hein, le fameux château de Saint-Ferréol, il n'y en a qu'un à Minglon. Le vendredi 10 mai, 19h30. Et donc qui vous invite là?
C'est le château. C'est le château qui a la gentillesse d'organiser le concert. D'ailleurs, on les en remercie.
Ils sont allés vous chercher?
Non, on est entré en contact il y a un moment, on se connaissait déjà un petit peu. Et voilà, bon, là, ça a été l'occasion de... allez, faisons quelque chose.
Dans quel espace, tu le sais ?
Alors, ça va être dans une salle qui est dédiée à la musique. Moi, je ne l'ai pas encore, je l'ai pas encore traversée. Je n'ai pas encore été voir à quoi elle ressemblait. J'ai simplement vu en photo, mais ça va être voilà, une pièce qui est dédiée à la musique, qui sera agréable, qui donnera légèrement, je crois, sur l'extérieur. Enfin, il y a des fenêtres, il y a de la lumière... Ça sera plutôt un cadre intime, en fait, qui laisse de la place à la méditation, à l'intériorisation de la musique.
Ouais, est-ce qu'il faut être dans une certaine condition pour bien apprécier un concert de Moods ?
Je dirais qu'il ne faut pas s'attendre à danser, mais que sinon, il n'y a pas de condition particulière. Simplement, avoir envie d'écouter de la musique.
Mais du coup, on se met comment ? On est plutôt assis, allongé ?
Il y aura des chaises. Ouais. Après, il y a toujours dans nos concerts la possibilité de s'allonger ou de se mettre en tailleur, au premier rang notamment. Et en fait, toutes les configurations d'assises ou de poses sont permises. Si vous voulez vous accrocher au plafond, c'est possible tant que ça ne dérange personne.
Alors, on le disait aussi en antenne, vous êtes basé là dans notre secteur, hein, Créé, Oust, enfin par là-bas. Il y a un studio où vous travaillez avec des gens du coin ?
Non, on travaille en home studio,
essentiellement. Ouais.
Donc voilà, on le construit petit à petit, pierre après pierre.
On vous aide peut-être, non ?
Ah bah, vous pouvez nous aider.
Il n'y a pas de crowdfunding en vue ?
Pas encore, mais en tout cas, vous pouvez déjà nous soutenir en venant à nos concerts. Ça, c'est surtout cet aspect-là qui est important. Et puis oui, sans doute, s'il y a un moment donné, on aura besoin d'investir pour faire les choses en grand.
Vous en vivez ?
Pas encore. Pas encore. Là,
du coup, c'est quoi ton travail ?
Alors, en fait, moi, je donne des cours de chant.
Ah.
Et je suis également bruiteur et compositeur, mais dans le monde du jeu vidéo.
Excellent.
Voilà, donc je vis de la musique.
C'est quoi ton dernier titre ?
Alors là, en ce moment, je travaille sur un jeu qui s'appelle Winter Island, qui est produit par un studio qui s'appelle Mirari Games. C'est en cours de développement. On va lancer le trailer là dans 2 semaines, mais ça n'a absolument rien à voir avec Moods.
Non, mais attends, excuse-moi, mais puisque tu dis graisse, allons-y.
Et Bruiteur, alors ça consiste en quoi? C'est donc t'inventes tous les.
Ouais, et je crois qu'on peut vraiment.
Bruiteur live.
Alors non, je suis pas bruiteur live. Justement, j'enregistre des sons, mais je travaille quand même vraiment beaucoup avec des banques de sons, et mon travail est plus celui d'un colleur concepteur de sons. L'essentiel, en fait, de mon invention réside dans, OK, quel est vraiment le type de son que j'ai envie d'entendre sur cette image-là, et comment j'ai envie que ça, comment j'ai envie que ça émeuve, en fait. Comment on peut émouvoir avec du son.
Est-ce que ça transpire dans Moods, ce travail-là?
Complètement. En fait, le travail de paysage sonore qu'on fait, il est vraiment... voilà, moi, j'en suis à l'initiative, et c'est... Quelque part, c'est mon travail de bruiteur qui m'amène à désirer ça. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment qu'en concert, on puisse fermer les yeux et avoir l'impression qu'on est quelque part, qu'on peut s'y déplacer, qu'on est dans un environnement vivant et qui vit à travers la musique.
Tu vois que ça n'a pas rien à voir.
Bien sûr. c'est vrai, t'as raison.
Surtout que les jeux vidéo, c'est exactement ça. C'est d'amener les gens à évoluer dans un milieu qui, bon, certes, est un peu plus fermé que l'imagination, mais qui souvent permet quand même une grande liberté de déplacement, de mouvement.
Ouais.
Et donc, voilà, l'objectif peut-être, ce serait quand même de pouvoir vivre aussi de la musique, devenir intermittent.
Bah, pas du tout, non, pas du tout.
Toute ta vie, tu... Non, mais attends, c'est aussi bien comme boulot.
On adore galérer, tu vois, c'est ça le truc.
C'est la galère d'aller bosser pour des jeux vidéo. Là, je crois qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont jaloux.
Ça, c'est fort possible.
Un rêve d'enfant, tu vois, pour beaucoup.
Ouais, mais bon, voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer, en fait, les bonnes personnes à un moment donné. Ce qui me permet aujourd'hui de gagner d'ailleurs partiellement ma vie, en fait, avec ça. J'ai d'autres périodes où c'est moins évident.
Moods, donc, on parle de musique indienne, le ragamala. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs?
Souvent, les gens ressortent de nos concerts assez différents de comment ils y sont arrivés. C'est le constat que je fais là après.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que bon, là, en gros, pour te raconter une anecdote vraiment très concrète, au dernier concert qu'on a fait, il y a un jeune homme avec qui j'ai discuté, voilà, parce qu'on aime bien discuter à la fin avec le public, et qui me disait vraiment c'était très étrange parce que plus le concert se poursuivait, et plus je sentais physiquement les personnes autour de moi. Et je les sentais physiquement en fermant les yeux, et puis je finissais par sentir les liens qui les reliaient, et c'était quelque chose de très matériel, moi. Comme si c'était quelque chose qui pouvait vraiment toucher, quoi. Comme s'il y avait une énergie qui passait vraiment entre les gens et qui pouvait l'appréhender par les sens, en l'occurrence par le sens kinesthésique. Et c'est pas le premier témoignage comme ça que j'entends. Alors, en général, le plus gros des témoignages, c'est de dire que bon, bah, maintenant je me sens vraiment très 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 relaxé et tellement plus détendu que je ne le suis habituellement. Mais de temps en temps, il y a des gens qui font une expérience vraiment hors du commun lors de ces concerts-là, et qui me laissent toujours très curieux, parce que moi, je n'ai pas encore eu l'honneur d'avoir...
Toi, tu ne sens pas la salle, par exemple? Tu vois, cette vibration-là, ce n'est pas quelque chose que vous avez vécu vous-même, qui pourrait être du coup lié à cette musique particulièrement? Et d'ailleurs, je vais plus loin dans la question. Est-ce qu'elle a un objectif, cette musique, d'être vraiment relaxante? Est-ce que c'est le but?
Non, clairement, la relaxation est plus un moyen qu'une fin dans notre approche. Si je me rapporte vraiment à la musique indienne traditionnelle, il y a un réel but spirituel, en fait, de développement de la personnalité, des sens, de la conscience de soi et de la conscience du monde. Je ne peux pas prétendre que c'est mon but personnel à travers le groupe Moods, parce qu'on arrive tous dans le groupe avec des visions assez différentes sur cet aspect-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez quand même saillant dans le groupe. On cherche en tout cas à ce qu'il se passe quelque chose entre les gens, pas nécessairement entre nous et le public, mais entre les personnes qui sont réunies dans le concert. Ça, c'est un aspect qui est très important.
Est-ce que du coup, chaque concert est très différent?
Ouais, franchement, ouais. Jusqu'ici, il n'y a jamais eu un concert qui se ressemblait.
La fausse note, elle passe bien?
Ça dépend dans quel cadre culturel on se place, en fait. Comment on va recevoir cette musique-là. Si on se place vraiment dans le cadre culturel indien ou de l'amateur de musique indienne, c'est pas tellement la fausse note qui va être dérangeant, mais plutôt tout ce qui va sortir de l'esprit du rag, tout ce qui va sortir du climat qu'on est censé installer à travers le rag. Ça va être gênant. Si on se place dans un contexte culturel purement occidental, je dirais qu'une note qui sort de la gamme qu'on est en train de jouer, en général, elle est plutôt bienvenue. Et parfois, moi, je fais très volontairement des sorties pour voilà, explorer autre chose, voir s'il n'y a pas de la dodécaphonie à faire. Voilà, parfois, on aime bien glisser des surprises au milieu du concert.
Et comme tu parlais des Indiens que tu as pu rencontrer, est-ce que, au moins par ceux qui vivent en Occident, votre musique est appréciée j'allais dire au sens noble de ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dénaturée, elle n'est pas...
Ouais, est-ce que tu veux dire que est-ce qu'un Indien est déjà venu nous dire
oui.
Ah voilà, bah,
ou alors un pur amateur même. Il y a des gens qui sont à fond, qui écoutent énormément de raga et qui pourraient dire vraiment, vous nous emmenez trop loin, vous sortez de, c'est plus traditionnel.
Oui, c'est déjà arrivé. Les deux en fait sont déjà arrivés. Antérieurement à mon arrivée dans le groupe, d'ailleurs, c'était déjà le cas. Puis depuis que j'y suis, il y a souvent des remarques, depuis que je suis arrivé, par rapport en fait, à l'arrivée du violoncelle dans le groupe, comme quoi ça apporte quelque chose d'une rencontre interculturelle. Il y a parfois, il y a eu des amateurs de musique indienne pure et dure qui sont venus nous dire c'était bien ce que vous avez fait, mais c'est pas tout à fait dans les codes et tout. Voilà, ça arrive aussi. Et puis parfois, parce que ça nous arrive de jouer bien dans les codes aussi. Voilà, ça permet de faire une vraie expérience culturelle. Mais en général, c'est plutôt des moments dans les concerts. Plutôt qu'un concert tout du long qui va être absolument traditionnel, absolument bien cadré.
Théo Harfouche pour Moods. Alors, en concert au château de Saint-Ferréol, à Minglon, le vendredi 10 mai, à partir de 19h30, avec un PAF à 10 euros. Un site internet, tu le disais, tu peux nous le reciter ?
inthemoods.fr. Si vous tapez simplement in the moods, c'est-à-dire dans l'humeur, dans le ton, sur Google, vous nous trouverez assez facilement. Vous pouvez aussi réserver les places du concert à l'adresse châteausaintferréol@gmail.com. Voilà, c'est...
Vaut mieux réserver ?
Oui, il vaut mieux réserver, parce que la salle n'est pas en fait gigantesque, donc il vaut mieux...
Tu connais la jauge ?
Bah, on est entre 80 et 100 personnes, quelque chose comme ça.
Bon, si, quand même, alors dépêchez-vous. Et on se quitte avec un dernier titre ?
Absolument.
Que tu nous présentes.
Alors, Raga Yaman, qui est en fait qui est le raga avec lequel on commence en général la musique indienne, qui est, on va dire, le raga des maîtres et des disciples, le raga de la transmission, mais qui est également le raga du crépuscule, et qui se rapporte à cette fin de journée paisible qu'on achève dans la sérénité et dans le soin de soi et des autres.
Merci à toi.
Merci
à une prochaine.
À toi. Ouais.
Dès que vous avez un album, faut pas hésiter.
Yes. Thank you.
Na.